Je passe la parole à Marc Pouzet qui va nous parler des merveilleuses erreurs que font les simulateurs temps réel, comme Simulink ou autres, et de la façon de les remettre sur pied en faisant des très très jolies choses d'arithmétique non standard et des choses comme ça. Marc est professeur à l'École normale supérieure, pas très loin d'ici, heureusement pour moi. Alors, pour ceux qui avaient vu le Carl-Johan Ostrom la fois dernière, hein, donc, il a mentionné ce problème terrible, c'est que quand on simule des choses qui mélangent du continu et du discret, les simulateurs actuels ont tendance à faire rigoureusement n'importe quoi. Mais en plus, non seulement ils font n'importe quoi, mais on ne sait pas quel n'importe quoi. Et donc, Marc va nous montrer comment on peut ne pas faire n'importe quoi en sachant quel pas n'importe quoi. Il faut s'habituer à la négation en logique.
Bonjour à tous, merci pour cette invitation à vous présenter un travail qui a été mené en collaboration avec Albert Benvenis, qui est venu ici il y a quelques semaines, Timothy Bourque, Benoît Caillot et Bruno Pagano, et je voudrais en profiter pour remercier Tim, avec lequel on a beaucoup programmé et fait plein de trucs à quatre mains. Donc on va s'intéresser ici. Donc le plan de cet exposé, je vais vous montrer ce qui existe actuellement, les outils de modélisation de systèmes hybrides et certaines surprises qu'on a lorsque, en venant du monde des langages de programmation, on commence à les utiliser. On fera un interlude sur l'intérieur de comment fonctionne un solver numérique et puis je vous présenterai nos travaux. Alors, c'est un travail qui s'inscrit dans un courant d'idées anciens qui est l'idée d'écrire des spécifications mathématiques exécutables, hein, dans un langage de haut niveau, et qui servent de référence indépendante de l'implémentation, qui soit une base pour simuler, tester, vérifier formellement, et jusqu'à produire du code exécutable, séquentiel, parallèle, peu importe, et dont on pense que c'est un chemin efficace pour obtenir du code avec, on dit parfois correct par construction, mais disons avec le moins de bugs possible. Gérard Berry vous a parlé dans les cours passés de l'aventure des langages synchrones. Ce schéma qui vient d'Esther Altec est un vieil exemple avec lequel on avait beaucoup joué, qui est le contrôleur de vitesse. Ce qu'il faut en retenir ici, c'est qu'on a des langages graphiques et dans lesquels on va combiner à la fois des schémas blocs dataflow, des équations de suite, et puis des automates, des structures hiérarchiques. Et c'est là le cruise control, donc il y a le mode où on n'appuie pas sur le bouton on, et puis quand on appuie sur le bouton on, on va dans un mode structuré, etc. Alors, le succès, en somme, des langages synchrones est d'être apparu comme une bonne manière de programmer des systèmes à temps discret, avec une sémantique relativement simple et précise, basée sur des équations de différence, des automates hiérarchiques composés en parallèle. Et on utilise le langage tout au long du développement. Le compilateur d'un langage synchrone a tendance à rejeter des programmes par opposition à certains langages beaucoup plus laxistes, mais il vous garantit en échange que votre code est déterministe et qui, lorsqu'il est produit par le compilateur, va s'exécuter en temps et mémoire bornée. Il y a un trait très important de ces langages, c'est beaucoup dû à leur simplicité formelle, en somme, c'est qu'on est capable de générer du code dont on a une grande confiance. On parle de certification avec les niveaux, les standards de l'avionique les plus exigeants du moment. Et ce qui fait en somme que SCADE est beaucoup utilisé pour le logiciel de contrôle critique. Et vous avez eu une présentation du côté utilisateur par Emmanuel de Dino de Dassault Aviation. Et moi, j'étais de l'autre côté, plutôt du côté de la conception, et vous avez Bruno Pagano, avec lequel on a travaillé, qui vous a montré plutôt le côté design de langage. Alors, malheureusement, les systèmes réels sont un poil plus compliqués, ils ont besoin d'un peu plus, et on va voir maintenant que notre tout petit cruise control, c'est pas grand-chose vis-à-vis de tout le reste. On veut modéliser l'écran, les cadrans de vitesse, on veut modéliser toute la structure de la voiture, le moteur, les roues, l'interaction entre tout ça, et c'est ce jeu-là qu'on cherche à jouer. D'accord ? Donc pour concevoir un petit contrôleur embarqué, force pas très compliqué, on a absolument besoin de maîtriser l'ensemble de cette chaîne, Et c'est ça le point. Alors, on va prendre un cas plus simple pour qu'on comprenne un peu de quoi il s'agit. Et j'ai pris l'exemple qui est un des démos de base de Simulink, qui est le contrôleur dit Bang Bang. Et ce que l'on voit dans cet exemple, c'est que vous allez avoir ici, en somme, un automate, ce petit zigouigoui, ça dit que c'est un automate, qui est exécuté de façon périodique échantillonnée sur un timer toutes les secondes. Et la chose nouvelle, c'est que ce contrôleur discret, il est en parallèle avec un modèle de la chaudière. Donc le but, c'est d'écrire un programme qui va essayer de faire en sorte que la température de la chaudière respecte une consigne qui est 20 degrés. Et pour ça, on voit qu'on a le contrôleur qui cause un modèle de l'environnement physique dont on mesure la température actuelle et en faisant un écart en mesurant l'erreur entre la consigne et le retour, on va faire un contrôleur. Alors, tout ça, c'est du Simulink tout à fait standard. Donc ici, en cliquant là-dessus, je vais avoir des automates. Bon, ils sont écrits en state flow, mais... On pourrait l'écrire en scale. Mais plus intéressant ici, on voit que cette fois, on a des blocs. Et là, il y a un petit bloc nouveau qui est 1 sur S. 1 sur S, ça va être l'intégrale du signal. Et ce schéma bloc dit, eh bien, quand cette conditionnelle est vraie, on intègre 1 divisé par 25 fois 1. Et par contre, quand la condition est fausse, donc quand on ne chauffe pas, on intègre moins 0,1 fois 1 divisé par 25. D'accord. Alors on peut aller plus loin, il y a beaucoup d'autres choses plus complexes encore. Donc ça c'est un exemple typique. Alors il y a tout un tas d'outils pour décrire ça. Parmi les plus connus, donc Simulink State Flow, c'est plus d'un million de licences, la BIOP, Ptolemy dont Gérard Berry a parlé, et le séminaire d'Edward Lee en décembre. Des langages beaucoup plus expressifs à base d'équations différentielles algébriques, et du temps discret, Modelica, VHDL-MS, etc. Des outils dédiés à certains métiers mécaniques ou électriques. Et puis enfin, la solution finalement naturelle, qui est on a plein d'outils, on les branche ensemble, on met des convertisseurs, on se met d'accord sur des formats, et puis à la fin, on a quelque chose. Les modèles mathématiques sous-jacents de tout ça, qu'est-ce que c'est ? C'est du parallélisme synchrone, des équations différences, des équations data flow, avec l'idée d'un temps logique. Donc le temps logique, c'est que le temps, c'est un indice dans les entiers naturels. Et par ailleurs, des équations différentielles ordinaires. Donc je vous ai montré ce bloc, d'accord, qui est l'intégrateur, et dont lorsque j'écris que O, c'est l'intégrale de x initialisée avec v. Mathématiquement, la sémantique exacte, c'est à l'instant t, c'est la valeur initiale de v0 plus l'intégrale de 0 à t du signal x. D'accord ? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire finalement si tous ces outils existent ? On sait comment construire des outils pour faire du discret, on sait comment faire des outils et des mathématiques pour faire des modèles continus. Qu'est-ce qui se passe si on mélange les deux ? Est-ce qu'il suffit d'en brancher l'un avec l'autre ? Et en somme, est-ce qu'on peut leur faire confiance lorsqu'il s'agit de générer du code qui va être embarqué ? C'est le vrai code qui tourne, in fine, pas simplement pour faire de la simulation. Alors, on regarde ces outils, on joue avec et on observe des choses surprenantes. La première est la suivante, que je vais appeler, qualifier d'un problème de typage. En somme, je vais créer un problème très simple. Je vais prendre une constante 1 que je vais intégrer. Ça monte droit. Et là, je vais écrire un programme tout à fait étrange. Je vais faire une boucle. Donc, je vais prendre les deux entrées, time et la valeur précédente d'un signal CPT, connecter un bloc 1 sur Z. 1 sur Z, ça dit, je prends la valeur précédente. Mais la valeur précédente d'un signal continu, ce n'est pas très clair. Mais on va quand même écrire ça. Et puis, on va regarder ce qui se passe. Et puis, ça affiche des trucs. Donc, à T égale 3, ça calcule, ça arrive à 70. Maintenant, on va mettre ce programme en parallèle avec un autre, complètement indépendant. Je prends une sinusoïde, donc un signal bien rond. Là, je mets un bloc qui dit, à chaque fois que la sinusoïde traverse 0, part en bas ou part en haut, tu t'arrêtes. D'accord. Et puis, on affiche la sortie. On relance tout ce machin, et puis on obtient d'abord des petits zigouigouis, là, puis on arrive à 100. On n'a pas touché ce programme, hein. Alors, ça dit qu'en somme, la valeur de CPT, ça dépend des instants où le solver décide de s'arrêter. Le solver s'arrête parce qu'il a besoin de s'arrêter aux instants de zero crossing, on lui a demandé. Ou parce que l'erreur dans l'intégration est trop forte et donc il va faire des pas plus petits. C'est vrai en mettant cette sinusoïde, mais c'est vrai si on choisit une autre méthode d'intégration numérique interne, on n'aura peut-être pas 100, 120, ça dépend. Alors, Simulink, en somme, vous informe qu'il y a un truc bizarre dans ce programme. Par contre, si on écrit en somme exactement la même bizarrerie, en utilisant un automate, il va rien voir. Donc je prends mon intégrale, je fais un petit automate, cet automate est très simple, il dit, tu initialises une variable impérative à 0, et puis tant que le temps est plus petit que 42, tu incrémentes un compteur. Mais c'est quoi le sens de tant que t est plus petit que 42 lorsque t est continu? Et donc là, on va obtenir 45. Si on change de solver, on obtiendra 50, etc. En somme, ça dure combien un pas discret en Simulink? D'accord? Alors, le manuel vous dit, attention, il y a une seule transition qui est prise par pas majeur, c'est-à-dire par pas où je décide de m'arrêter. D'accord? Mais vous n'êtes pas informé qu'il y a une difficulté. En somme, dans ces outils, le temps n'est pas une notion logique, comme vous l'avez vu dans les langages synchrones. On parle, lorsqu'on parle de la succession des instants, on ne dit pas qu'il dure 5 minutes, 2 heures, 2 jours. Alors qu'ici, le temps, c'est celui du solver, de la machinerie d'exécution. Ça va être une difficulté. Bon, mais après tout, on n'a qu'à se dire qu'on programme bien, on fait attention. Alors on va trouver un autre exemple vraiment curieux, un peu tiré par les cheveux, j'en conviens. On va prendre un bloc d'intégration et on va le brancher à un deuxième bloc d'intégration. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je prends la constante 1, je l'intègre, ça veut dire que c'est un truc de pente 1. D'accord. Je prends la sortie x, je l'intègre, ça veut dire que c'est t2 sur 2. D'accord. Et on obtient ça. Alors maintenant, on voudrait faire une chose un tout petit peu plus compliquée. On veut introduire une discontinuité. On voudrait dire, à l'instant où la sortie X atteint une certaine valeur, tu réinitialises l'état interne du solver. D'accord ? Alors, il faut le faire à travers un opérateur, une construction spéciale qui s'appelle le stateport. Et je vais écrire ce schéma étrange. Je vais tirer la sortie, donc la valeur de l'intégrateur ici, que je vais connecter là, et je vais dire, lorsque le rouge atteint 2, pouf, tu réinitialises cet intégrateur avec la valeur de l'entrée qui est là, c'est-à-dire moins 3 fois la valeur de ce signal. Si on regarde les équations, je vais noter ce stateport last, et dont on interprétera comme la limite à gauche du signal, hein, vous avez vu continue à droite, bah c'est juste avant la discontinuité, ça vaut combien? Le signal, ce qu'on est censé obtenir, c'est ça. D'accord, c'est-à-dire qu'à l'instant du zéro crossing, on fait moins 3 fois last y, ça vaut moins 6, moins 4 fois last x, ça fait moins 8. D'accord. Et ce que dit le manuel Simulink, c'est la sortie du stateport est la même que la sortie standard de l'intégrateur, sauf dans le cas suivant, si le bloc est reseté dans l'instant courant, la sortie du stateport est la valeur qu'aurait eu le bloc s'il n'avait pas été reseté. C'est une façon un peu tordue de parler de la limite à gauche. Si on regarde ce qui se passe, on n'obtient pas du tout ça, on obtient ça. Et c'est pas du tout pareil. D'accord ? Alors, pour comprendre ce qui se passe, on n'a pas le choix, il faut regarder le code. Parce que le manuel dit quelque chose, le résultat dit une autre chose. Et si on regarde le code, je vais passer vite, Simulink va vous fabriquer une fonction séquentielle qui calcule un pas. Un peu comme en synchrone, le résultat de la compilation, c'est la sortie courante dépend des entrées courantes et d'un certain état interne. En regardant ce code, on voit qu'il y a un problème de scheduling. Il va ici faire une affectation. Faisant cette affectation, il va écraser la valeur qui était là. D'accord. La valeur de x, pouf, il va l'effacer. De sorte que le flow, le stateport, l'astix est écrasé. D'accord. Autrement dit, il y a un problème dans le traitement de la causalité, qui est un sujet qui a beaucoup intéressé ce cours précédemment, dans Simulink. Alors, ça ne marchait pas avec la release 2009, mais ça ne marche pas mieux avec celle que vous pouvez acheter demain. Donc la pratique courante de ces outils, c'est en somme, lorsqu'il y a une différence entre le manuel et l'implémentation, lequel a raison ? Il nous faut un moyen de discuter, de décider. Et je passe le fait que dans ces langages, vous y ajoutez les effets de bord, les variables globales, le backtracking, enfin tout un tas de trucs qui sont dont les informaticiens savent que c'est loin d'être facile à traiter. Et donc il faut trouver un moyen de se mettre d'accord. Donc on voudrait quelque chose qui clarifie un peu cette intégration entre continu et discret et qui nous aide à dire, OK, ça c'est un mauvais programme, il faut absolument le rejeter et trouver des bons critères pour ça. Alors, on va faire un interlude sur l'intérieur d'un solver numérique, ou plus exactement, comment ça fonctionne et les choses avec lesquelles il faut être prudent. D'abord, on écrit des équations différentielles, et toutes ne sont pas calculables analytiquement, évidemment. Et donc, on est un peu ennuyé, on doit utiliser des machineries très anciennes, mais qui continuent à être développées, qui vont finalement, à partir de ces trajectoires à temps continu, qui vont calculer une approximation discrète, qui vont calculer une séquence d'approximation. Autrement dit, un solver numérique, il fabrique du temps discret. Il n'a pas le choix. Et on va prendre ce qui est considéré comme un des bons solveurs de la place. Lawrence Livermore National Labs, qui est un solveur d'équations différentielles ordinaires qui s'appelle fait par Sundials, et qui est, disons, quelque chose d'assez avancé. Alors, c'est très subtil, ces bestioles-là, parce que c'est à pas variable. Autrement dit, quand les signaux sont ronds, ça fait des pas gigantesques. Quand les signaux sont raides, donc change beaucoup, ça fait des tout petits pas. Et puis, c'est très intelligent, parce que ça peut changer l'ordre dynamiquement, c'est-à-dire ça peut calculer beaucoup de pas intermédiaires pour avoir une meilleure estimation. Ça alterne à runtime à l'exécution, le calcul explicite et implicite. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être capable d'utiliser, en somme, des solveurs, et puis le laisser un peu abstrait, parce que si on commence à mettre dans la sémantique de notre langage le comportement d'un solveur réel, qui est un bout de code qui n'est pas du tout simple, on risque d'avoir du mal à dire quelque chose. Alors, on va prendre un exemple bébête. Je fais la démo, parce que on résiste pas, que c'est des exemples tellement... On va voir ça, donc c'est un petit programme tout à fait simple. Puis vous allez voir, il y a un petit truc bizarre, zion, qui a déjà été montré précédemment, et donc sur lequel je vais revenir. Donc on écrit la somme des forces égale m gamma, on range tout ça, on met ça sous la forme de ce qui s'appelle un système de premier ordre. Donc on dit la dérivée de la vitesse est moins g, la dérivée de la position c'est v, on donne des conditions initiales. Et puis, bon, la solution parfaite, très bien. Et puis, il faut donner au solveur un truc. Alors, ce qu'il faut donner au solveur, c'est une certaine fonction f qui dit à chaque instant comment le vecteur moins gv évolue et les conditions initiales. D'accord ? Et lui, à partir de ça, son boulot, c'est d'essayer de l'approximer. Il nous faut une petite chose de plus, vous avez vu que cette balle rebondit, donc on va détecter ce qu'on va appeler un zéro crossing, un instant où un signal continu, ici, va traverser zéro de négatif à positif. Et on va le faire en écrivant, alors c'est les notations classiques, la fonction intégrée, je rappelle ça f, depuis très longtemps, et la fonction de détection de zéro crossing, ils appellent g depuis très longtemps, je ne sais d'ailleurs absolument pas pourquoi. Et là, on va dire, détecte-moi, hop, donc négatif à positif de moins h. Donc ça veut dire que ça passe 0. Alors si on regarde ce qui se passe, ça veut dire qu'il nous faut fabriquer deux fonctions, f et g. Je rajoute un petit paramètre, ne le considérez pas pour l'instant. Et qu'est-ce qui se passe ? Il initialise, le solver initialise le signal à une certaine valeur. Et puis là, il va calculer des pas internes, un certain nombre de pas internes, jusqu'à ce qu'il dira, voilà, g à t1, une estimation raisonnable de la valeur de y. D'accord ? Il calcule la valeur de z, il dit il n'y a pas eu de changement de signe, donc tout va bien, je continue. Et puis il continue. Et évidemment, quand le signal est un peu rond, il va faire des pas de plus en plus grands. Comme ça, il calculera moins. Il n'y a pas de changement de signe. Et puis, il se rend compte là que l'erreur est trop grande. Donc il revient en arrière. Il revient en arrière il refait un certain nombre de pas jusqu'à atteindre un seuil en deçà de l'erreur. Et puis s'il réduit le pas trop, il dira ben là je ne peux rien pas conclure, il va s'arrêter. Et puis on continue, et là, paf, il fait un pas, il se rend compte que le signal de zéro crossing a changé de signe. Et donc il y a une technique de recherche de racines et qui, elle, ne va pas réintégrer le signal, qui va travailler par interpolation des valeurs déjà calculées. D'accord ? Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que le temps n'avance pas nécessairement de façon monotone et qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait des effets de bord sur F et G. Il ne faut pas que ça affiche des trucs à l'écran, il ne faut pas que ça, si vous pensez au synchrone, il ne faut pas que ça modifie physiquement des registres, parce que les résultats dans ce cas-là seront complètement bizarres. Mais ça, c'est la base pour faire un système hybride, ça, ce n'est pas encore suffisant. Là, si on regarde maintenant la machinerie, en somme, d'exécution d'un système hybride, ça va en somme alterner deux types de comportements. Donc il y a un jeu à deux joueurs, qui est, il y a des cas, des modifications discrètes à faire, d'accord ? Donc on va changer des gains, des variables, des paramètres, peu importe. Et puis on va lancer l'intégration. L'intégration va essayer d'atteindre un certain horizon. Et puis lorsqu'un événement de traversée de zéro aura été détecté, pouf, on reviendra ici. Et donc en somme, si on avait à faire un modeleur hybride à la main, il faudrait qu'on fabrique trois fonctions. La fonction f à donner au solver, la fonction g pour détecter les zéro crossing de signaux continus, puis une fonction que j'ai appelée d pour discret qui dit quand elle est appelée, tu modifies l'état interne y et puis éventuellement d'autres variables, des paramètres divers. Okay ? Et il faut donc non seulement que f et g soient sans effet de bord et préférablement continus. Et pour s'en convaincre, on va prendre encore un tout petit programme. On va utiliser Sundials, mais vous pouvez essayer un autre. Donc je vais faire un signal qui n'est avec une dérivée. Je vais dire ma pente, c'est 1 de t jusqu'à t égale 3. Ma pente, c'est 0 de t égale 3 à 7. Ma pente, c'est moins 1 de 7 à partir de 7. D'accord ? Solution analytique triviale, rien à dire. On essaye de l'intégrer. Et là, on voit qu'il calcule beaucoup ici parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Il va beaucoup en arrière. Évidemment, c'est un truc de pantin, ça ne coûte rien. Mais imaginez un système un poil plus compliqué. Puis ensuite, il fait des grands pas. Et là, il recule beaucoup. Il fait plein d'essais. Puis il redescend. Je n'ai pas affiché l'erreur. On va faire un autre système. On va faire un programme, penser un programme un peu impératif avec trois modes. Il y a trois lois de commande. Il y en a une où il faut monter, il y en a une où il faut être plat et une autre où il faut descendre. D'accord ? Vous écrivez ça, alors je l'ai fait en camel parce que j'aime camel, mais on peut le faire en ce que vous voulez. On va faire la fonction f, on va faire la fonction g, on va faire la fonction d à la main. La fonction f, elle dit, bah, quand tu montes, c'est 1, la pente, quand c'est plat, c'est 0, quand c'est ramping down, tu descends. D'accord ? La fonction g dit, on va partager le zéro crossing, on va dire, observe-moi t-3, sinon observe-moi t-7. Le fait, vous voyez ici que j'appelle ça un zéro crossing, est un peu cavalier parce que c'est un bête horizon. Hein, mais imaginez, prenez à la place de ça un signal plus compliqué. Et puis j'ai un petit bout de code discret qui va aller changer la valeur du pas discret, qui dit ben, quand j'étais en mode ramping up et puis que Z, le zéro crossing est vrai, pouf, tu passes à flat. Quand tu étais en mode flat et puis que Z est vrai, pouf, tu passes à ramping down. D'accord ? Dans cette alternance entre ce jeu discret continu. OK ? Alors, si on fait la démo, est-ce que je ne me suis pas trompé ? Oui, c'est ça. Donc, si on fait la démo, le programme est très bon, vous voyez qu'il fait des pas quasiment bons, d'accord ? Parce qu'on lui a dit, détecte-moi les zéro crossing. Donc, il est allé beaucoup plus loin, mais il a dit, je suis allé beaucoup plus loin, il y a un changement de signe, j'applique une méthode de racine, et sur un signal de pantin, ça va assez vite. Puis ensuite, il fait. Donc, on a un résultat qui est très bon. Alors maintenant, on va faire un deuxième truc. Un solver numérique, c'est une machine à état interne. Elle mémorise l'histoire de l'intégration passée pour minimiser les calculs inutiles. Donc si on oublie de réinitialiser le solver quand on est là, lui, en fait, il a calculé ici, il pense que c'est bon. Personne ne lui a dit que l'approximation qu'il avait prise était mauvaise. Et donc, il part d'ici. Puis là, vous voyez, il fait des pas gigantesques. au point même de passer le moment où il y a un truc là. D'accord ? Donc il va redescendre, mais que ici. Donc vous voyez que si vous donnez un signal discontinu à un solveur, non seulement ça le fait trébucher, il va faire beaucoup d'essais, et si vous oubliez de le resetter, alors là, ça fait des trucs tout à fait étranges. Voilà. Donc voilà pour l'interlude. Alors, on a cette machinerie, ces solveurs qui existent, qui sont développés depuis longtemps et dont on essaie d'utiliser le meilleur en somme. Hein. On ne va pas réinventer l'ensemble de ces travaux. Et donc, notre objectif, c'est de comprendre si et comment on peut construire un modeler hybride avec un point de vue qui est symétrique du point de vue historique des modeleurs hybrides existants. Les modeleurs hybrides existants, en fait, se sont basés d'abord sur du continu, des solveurs numériques, et progressivement ajouter du temps discret. On va regarder les choses à l'envers. On va dire, nous, on sait faire du synchrone, du discret, on sait générer du code embarqué. Est-ce que cette techno-là nous aide à reconstruire un modeleur hybride? Et avec un point de vue assez pragmatique, on avait appelé ça divide and recycle, on va essayer d'utiliser la sémantique synchrone comme quelque chose de structurant, qui va nous aider à dire si ces problèmes sont raisonnables ou pas raisonnables, en essayant d'être conservatif, à la fois pour faire du type de la sémantique, de la génération de code, en réutilisant un solver, et en étant conservatif, c'est-à-dire qu'on veut continuer à pouvoir générer du code embarqué. Alors, avant de vous montrer la technique, je vais vous montrer comment ces idées-là, on a essayé de les internaliser dans un prototype qui s'appelle Zelus. Alors, la première idée, c'était de dire, bien, on va écrire du synchrone comme d'habitude. Donc, on va écrire des signaux qui sont des suites de valeurs. On ne parle pas dans ces suites de valeurs du temps qui s'écoule d'un instant à l'autre. Donc, je vais écrire une addition qui prend un x et un y et qui fait la somme. Ça, c'est une notation syntaxique pour le schéma bloc que je vous ai montré avec un plus. Hein. On peut faire le calcul de min-max. Et puis maintenant, on peut faire des machines qui ont un état interne. Et pour ça, on va reprendre une vieille notation qu'on avait faite pour Scale il y a longtemps. On va noter node, le fait que cette fois, la fonction qui prend des suites et qui rend des suites a droit d'avoir une mémoire interne. Donc on va dire after nt, c'est un petit programme synchrone qui dit je rends vrai si j'ai vu n occurrences de t jusque-là. Donc je compte les tics, c'est notre factoriel à nous en synchrone. On compte le nombre d'occurrences et donc on dit si t est vrai, alors j'incrémente, je rends c plus 1 et sinon je rends c. Et c'est près de la valeur minimum du tic et de n. Ça, c'est une manière de ne pas avoir de problème avec des valeurs négatives. D'accord. Si on donne ça à manger à un compilateur, il nous dit add, c'est une fonction qui prend des entiers qui rend des entiers. Bon, ça, c'est polymorphe, c'est pas très important. After, c'est une fonction qui prend deux entiers qui rend un booléen. Puis là, il y a des petits trucs au-dessus des flèches que je vais raconter un peu plus tard. Ce compteur, on peut l'instancier deux fois pour faire un automate à deux modes qui va alterner vrai et faux. Donc j'ai créé un automate qui dit dans le mode on, qui est considéré comme l'état initial, x est vrai. Et au bout de n tic de t, tu passes dans le mode off. Donc c'est un clignotant. Hein. On peut resetter ce comportement. On peut dire à chaque fois que r est vrai, tu resets tout ça. À des détails de syntaxe près, on peut écrire ça en STL, en Scale, en plein de langages. Alors, maintenant, on va écrire un programme qui est un poil plus original, quoique, et on va reprendre un exemple qui est dû à Nicolas Alvax, qui a montré ici, il y a 4 ans bientôt, comment faire un petit contrôleur avec une hystérésis en lustre. Et vous l'avez montré en faisant une intégration représentée par un schéma Euler, donc un schéma discret élémentaire. D'accord. Alors, on ne va pas écrire les choses comme ça, on va écrire un contrôleur continu. Et pour marquer que c'est continu, on va mettre un petit mot-clé hybride que j'expliquerai après. On va dire la température en sortie, c'est la mise en parallèle d'un contrôleur qui observe une température, et cette température, c'est une chaudière qui reçoit en entrée un bit actif vrai ou faux. D'accord ? Donc vous voyez, il y a deux équations entre elles. Et ici, dans le heater, vous allez écrire quelque chose avec une équation différentielle. On va dire la dérivée de la température, quand c'est actif, c'est C moins une constante fois le temps, donc ça fait une exponentielle, et sinon c'est moins K fois le temps. Puis on va initialiser l'intégration, le signal temps, avec une valeur initiale. D'accord ? Donc ça, cette fois, ce n'est plus un schéma aux différences, c'est vraiment une équation différentielle. Et l'automate, il va avoir la même tête, il va dire bah, actif, c'est faux, jusqu'à ce que la température ait atteint un seuil. D'accord ? Et puis tu vas aller dans le mode actif. Et dans le mode actif, on va dire bah, jusqu'à ce que la température ait atteint un seuil max, et là tu t'arrêtes. D'accord ? Donc cette fois, on n'est pas dans un mode échantillonné, on a vraiment des signaux continus. Ça, c'est un contrôleur continu, complètement élémentaire. Et puis ça, c'est vraiment une équation différentielle à temps continu. D'accord ? Alors évidemment, je ne résiste pas au problème de montrer la balle qui rebondit. La balle qui rebondit, c'est une bête balle. Alors j'ai mis un petit escalier. Et donc cette fois, contrairement à une programmation lustre ou en synchrone où elle traverserait le sol, en somme, en échantillonné. Et là, vous avez vu que, boum, elle est repartie. Alors on va avoir exactement les mêmes problèmes que d'autres, c'est-à-dire que c'est une erreur dont Gérard Berry a parlé. Une fois que vous êtes passé sous zéro à cause des erreurs numériques, vous rebondissez en perdant un petit peu de vitesse, mais vous ne remontez pas assez. Et donc, comme vous ne remontez pas assez, vous tombez. Alors, pour ça, on va écrire ça avec un automate. D'accord ? Et cette fois, on va faire deux modes. On va dire, à partir d'un certain seuil, on va se mettre à glisser. D'accord ? Et si on regarde le code... Ça ne va pas marcher, OpenZDL, ça ne va pas marcher. Bon, ok, tant pis. Je ne vous montre pas le code, tant pis. Il se trouve que là, j'ai perdu mon slide. Mais est-ce qu'il est ? Non, ce n'est pas du tout ça. Bon, ok, j'ai trop de fenêtres, donc j'ai tout perdu mon slide. Non, tais-toi. C'est pas le bon. Bon, ça ne marche pas encore très bien, ce truc. Ok, je vais retrouver mon slide. Donde esta mon slide ? Il doit être là, je pense. Non, c'est pas ça. ok. Voilà. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on a écrit ici ? On a fait exactement les conditions initiales, donc les positions en X, en Y, et puis on a indiqué, attention, quand... moins x traverse 0, tu fais 90% fois moins. Et là, on a un petit problème, c'est que on ne peut pas définir à cet instant-là la valeur courante de y' en fonction d'elle-même. Ça fait un cycle. Il faut parler de la valeur juste avant de la limite à gauche. Donc, on va noter ça à l'astix. D'accord ? Alors, si on fait le sommaire des constructions de programmation... Bon, c'est dommage que je ne vous ai pas montré le texte, mais c'est tant pis pour moi. En somme, on va avoir tout le synchrone. Alors, c'est un prototype, hein, donc il y a des constructions qu'on pourrait rajouter, évidemment. On va pouvoir écrire des ODE avec des conditions initiales. Il nous faut pouvoir parler de la limite à gauche d'un signal. Il nous faut pouvoir parler, il y a des resets. Donc, qu'est-ce que c'était juste avant le reset ? D'accord ? Ou à l'instant du reset pour faire quelque chose avec. On va détecter, on va avoir besoin de s'arrêter sur des traversées de zéro. Et maintenant, on va réutiliser un concept qui existait dans STRL, qui est l'idée de signal et de thèse de présence d'un signal, etc., avec la logique sous-jacente. Et donc, on va pouvoir écrire des fonctions, une fonction f qui prend un x et qui prend un y, et qui dit bon, Z1, c'est je vais essayer de détecter la traversée de 0 de X. Z2, je vais essayer de détecter la traversée de 0 de Y. Et je vais dire, bien, quand Z1 est détecté, j'ai mes 1, et quand Z2 est... Sinon, quand Z2 est détecté, j'ai mes 2. Et si aucun de ces événements n'est émis, tu gardes la valeur précédente de V. D'accord ? Donc ça correspond à une construction qui existe dans Skate, qui est la condition d'activation. Donc, sur présence d'un événement, on rend une certaine valeur, et sinon, on a un registre interne qui garde la valeur précédente. Et il faut évidemment initialiser ce registre. Donc, on va garder cette notation init qu'on met en position terminale. D'accord ? Et en écrivant ça, le compilateur vous dit, j'ai deux signaux qui sont des flots, des flottants, et puis qui rend non seulement un flottant, et puis qui va donner un type un peu particulier à ces événements qu'on va appeler, à qui on va donner le type 0. D'accord ? Et ce qui est important, c'est que quand on a demandé à détecter une traversée de 0, le résultat, c'est un booléen. On peut s'en servir, on peut le distribuer à plusieurs bouts de blocs pour qu'il s'active exactement en même temps. D'accord ? Donc on est sûr sémantiquement qu'il partage le zero crossing. Ça nous aidera à comprendre ce qui se passe. Alors, on a trois difficultés auxquelles on doit faire face. Est-ce qu'on peut trouver une sémantique simple et qui nous aide à en somme, dire « Oh, ce programme n'a vraiment pas l'air raisonnable » ou au contraire, celui-là me paraît raisonnable, qui soit indépendante, ou relativement en tout cas indépendante de détails d'implémentation du solver, sinon on risque d'avoir beaucoup de difficultés à la faire simple, et qui nous serve en somme à prouver que la compilation est correcte et que le premier programme bizarre de Simulink, c'est raisonnable de le rejeter, et que le deuxième programme de Simulink qui est mal compilé, effectivement, il est mal compilé. D'accord ? Et pouvoir tracer la compilation pour dire, là, il y a une étape qui n'a pas marché, qui n'a pas respecté la sémantique de référence. D'accord ? Et pour ça, on va prendre un point de vue, le point de vue suivant, on va essayer d'avoir une idée de sémantique, et puis on va bâtir là-dessus des approximations, en somme des abstractions, qui vont être des systèmes de type, qui vont dire, voilà les conditions suffisantes pour que tout marche bien. Donc on va avoir deux difficultés, séparer ce qui est dit continu et discret, d'accord, pour que le temps discret continue à être logique comme il a été jusque-là en synchrone. Et puis le deuxième problème, c'est il y a éventuellement des problèmes qu'on ne pourra pas générer. On ne pourra pas générer ces fameuses fonctions D, G, F, parce qu'il y a des boucles dans tous les sens. D'accord. Et donc il nous faut des arguments, et ça, classiquement, dans la théorie des langages synchrones, ça s'est appelé l'analyse de causalité. Donc on va reproduire un peu ces raisonnements. Pour ça, on s'est inspiré de travaux très anciens. Alors, l'analyse non standard, c'est une vieille aventure des mathématiciens, inventée, étudiée en grand détail par Alan Robinson il y a très longtemps, et qui nous a, c'est un peu inspiré de ça. Avec une analogie en synchrone, on fait ce raccourci un peu rapide qui est le temps physique, c'est compliqué, faisons comme s'il n'y avait pas de temps. Donc, c'est un temps logique. D'accord, une espèce d'idéalisation, et puis on pose à la frontière les détails sordides d'échantillonnage, d'erreurs diverses. D'accord. Autrement dit, le programme n'introduit pas de non-déterminisme. Il y en a, mais il est traité par quelqu'un d'autre. On va en somme essayer de faire le même raisonnement. Qu'est-ce qui se passerait si j'avais un solver idéal parfait, qui ne se trompe jamais, qui calcule exactement comme il faut, d'accord. Et on va le voir comme une machinerie totalement synchrone, discrète, qui fait un suite de pas. Et le non-standard vient tout à fait naturellement. Vous écrivez la vitesse en Y, c'est Z. Z, c'est 10 moins 10% de Y, enfin des équations, etc. Vous écrivez ce que c'est censé calculer. Et maintenant, vous dites, imaginons que notre solver, il calcule séquentiellement, il fait des suites, mais avec des pas très très fins. Ce système d'équations, ça dit, je vais le noter étoile Y de 0, c'est 4. Et la valeur à l'instant n plus 1, si ça mime l'instant n fois d rond un très petit, c'est un infinitésimal, ça va être la valeur du coup d'avant plus la valeur de l'entrée courante fois ce petit pas. Donc on fait comme une intégration par rectangle classique à la Riemann. Puis on écrit toutes nos équations. En fait, cette idée tout à fait simple marche remarquablement bien. On rejoue beaucoup de choses connues, donc de façon un aperçu très, très rapide, mais l'analyse en non-standard vous dit l'ensemble des réels, en fait, et l'ensemble des entiers naturels peuvent être complétés par une infinité d'infiniment petits et d'infiniment grands. Pour les réels, les grands n, c'est qu'avec des infiniment grands. D'accord ? Avec une propriété que tout réel non-standard fini a un unique à une unique forme standard, un unique réel qui lui est infiniment proche. Et on va prendre comme base de temps donc l'horloge, la maîtresse du système, une suite d'instants comme ça, qui est de la forme n fois des ronds. Donc vous avez un très petit, vous commencez à zéro, Le suivant, c'est des rondes. Le suivant, c'est deux des rondes, trois des rondes. Mais des rondes, il en faut une infinité, parce que sinon, vous n'allez pas avancer dans des valeurs, disons, non nulles. Alors, cette structure-là, éminemment simple, en fait, elle hérite une propriété d'ordre total. Autrement dit, chaque élément a un prédécesseur et un successeur. Et maintenant, on va retrouver l'idée d'horloge, l'idée qui existe dans les langages synchrones, c'est on a une horloge de base et on va faire des sous-horloges, c'est-à-dire des sous-ensembles d'instants de cette horloge de base. Et on va prendre comme convention qu'une horloge est discrète si c'est le résultat d'un zéro-crossing ou l'échantillonnage d'une horloge discrète. Et c'est une discipline. On dira ce bout de code est discret s'il a été activé par un zéro-crossing ou il est lui-même échantillonné d'un truc qui vient d'un zéro-crossing. D'accord ? Et avec ça, on va rejouer la sémantique classique des langages synchrones. Évidemment, ce qui nous ennuie, c'est les resets, c'est les discontinuités des ODE, sinon tout ça, c'est un peu un exercice de style. Donc on dit bah, la dérivée de X et E, je l'initialise avec une certaine valeur initiale, et à chaque fois que Z est vrai, pouf, je remets E1 dans X. Eh bien ça, vous allez, ce bout de code, il est lui-même dans un sous-bloc, il est activé pas tout le temps. D'accord ? Donc il vit à un certain rythme, appelons-le T, il a une horloge. Et donc je vais dire, bien, la valeur de x au premier instant t0, d'accord, puisque c'est un ensemble, il y a un minimum, c'est la valeur initiale, j'ai une typo, c'est t0 là, c'est la première valeur de ça. Et sinon, eh bien, ça va dépendre de z. Si z de t est vrai, ben, c'est la valeur courante de 1. Sinon, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur précédente, donc boulet, je ne sais pas comment on le note, rond t, c'est la valeur précédente de cette base de temps-là, je prends la valeur juste avant. J'ai dit qu'il y a toujours un prédécesseur. D'accord ? À moins qu'on soit au tout début, mais dans ce cas-là, on a répondu. Là. Donc, c'est la valeur précédente plus des rondes fois l'entrée courante à l'instant précédent avec un schéma explicite de l'air classique. Si t est dans t. Et on dit, ben, sinon, ce n'est pas défini. Maintenant, qu'est-ce que ça va être last ? Ce qu'on avait comme intuition de limite à gauche, en fait, ça existe déjà, et l'opérateur last, en fait, existe dans scale. C'est la définition de l'opérateur last en scale, c'est la dernière valeur KVX à l'horloge de définition de X. C'est exactement ce qu'on fait, la valeur de X à l'instant T, c'est la valeur précédente de X. D'accord. Et lorsque le signal est continu, ça coïncide absolument avec la limite à gauche, et quand le signal n'est pas continu, bah, c'est la valeur précédente. Et là, je vais faire une parenthèse sur la sémantique de Edward Lee. Maintenant, le zéro crossing va fonctionner de la même manière. En regardant les instants, on passe de négatif à positif. Quoi de neuf sous le soleil, en somme, vis-à-vis en particulier de la sémantique superdense qui est due à Mahler, Pnuelli, Mana, et reprise beaucoup par étudiée en détail par Edward Lee, qui est cette idée qu'il est sage d'avoir une base de temps dite super dense pour la raison suivante. Les signaux qu'on définit ne sont pas nécessairement juste continus par morceaux. Ils peuvent avoir des discontinuités, puis plein de petits sauts de l'un à l'autre. D'accord ? C'est ce qui vous a été montré ici. Le point de vue synchrone non standard, c'est exactement le même. Vous faites des petits pas non standards. Mais si à chaque succession, là, si le nombre de petits pas est fini, fini fois un infinitésimal, c'est infinitésimalement petit. D'accord ? Donc ça ne va pas compter dans la dynamique du système. Autrement dit, vous voyez le système complètement. Donc en particulier lorsque vous mettez vos équations en parallèle, les choses sont relativement simples. Alors ça, c'est une partie du point de vue, et on va s'en servir. Donc on peut montrer qu'avec cette vision-là, on reconstruit, on donne un sens raisonnable à nos schémas différentiels. Et on va se servir de ça pour deux aspects. L'un, quel typage, sous quelles conditions je peux mélanger du temps logique et du temps discret. Il y a deux cas qui marchent bien. Vous faites un programme synchrone, vous mettez en parallèle deux équations de suite. Ça marche bien, on appelle ça un... Il y a un deuxième cas qui marche bien, des équations différentielles, il n'y a pas de reset, rien du tout, ça c'est nickel. On va noter ça hybride. Et il y a une situation qui est beaucoup plus ennuyeuse, qui est celle où vous mettez une équation différentielle, là, donc de pente 1, Et là, vous écrivez votre programme bizarre qui dit CPT, c'est la valeur précédente de CPT plus la valeur courante de T. Et en somme, vous en avez un qui est un peu les pattes en l'air. Il ne sait pas à quel instant il doit être activé, le bout de code discret. Et donc, on va dire ça, c'est un mauvais programme. Il est mal composé. Et donc, on va le rejeter avec une technique de typage extrêmement simple et qui fonctionne ainsi. Vous allez distinguer les fonctions en trois familles. Vous allez dire, il y a des fonctions qui sont combinatoires. On les utilise quand on veut. Elles n'ont pas d'état interne, elles n'ont pas d'effet de bord. On les utilise quand on en veut. Pour any, il y a des fonctions qui ont du temps logique, au sens où leur horloge de base, elle doit être discrète. D'accord ? Et on va leur donner la sorte des... Et puis les autres, les indiscrètes en somme, à qui on va donner la sorte C pour continuer. Et lorsqu'on va en mettre en parallèle notre équation différentielle et un bout de code à état interne, on va être obligé de l'activer sur un événement. D'accord ? Sinon, ce sera rejeté. Alors, cette discipline, elle marche de façon surprenante très bien. C'est vraiment le système de type le plus simple qu'on puisse imaginer. Vous avez simplement des fonctions et vous allez leur mettre des sortes en disant « Attention, ça, c'est une fonction de sorte A, une fonction de sorte C ou une fonction de sorte D. » Puis il y a une petite relation de sous-typage qui dit que lorsque j'ai une fonction combinatoire, je peux l'utiliser dans un contexte où j'ai besoin qu'elle soit de sorte C et d'horloge D. Par contre, entre les deux, ça ne peut pas se causer. Si vous regardez les horloges des opérateurs de base, bah, l'addition, il a un côté polymorphe, il s'utilise quand on veut, il n'y a pas d'effet de bord. Le if, ça va être pareil. L'égalité, il va falloir faire un peu attention, parce qu'une égalité, ça ne fabrique pas une sortie qui est continue. Si vous avez une petite évolution de l'entrée, vous pouvez passer de vrai à faux. D'accord ? Et donc là, on va dire, attention, non, ça doit être activé en discret. Okay ? Le pré, évidemment, c'est un opérateur de lus, c'est la valeur précédente du signal, ça doit être activé en discret. Followed by, c'est une notation pour le registre pré-initialisé, ça va être le même. Et vous voyez là, le up, là, le up, c'est un boulot pour le solver, donc c'est de sorte C. D'accord ? Et puis on va aller plus loin, et là, on découvre, en lisant les docs Simulink, State Flow, qu'il y a des tas de règles. Alors les règles vous disent, dans les automates, ne change ne fait des effets de bord que sur les transitions, au point d'entrée ou aux sorties. D'accord ? N'appelle jamais de fonction Simulink dans des états pendant des intégrations. Pendant des phases discrètes. Parce que les blocs Simulink peuvent avoir des intégrateurs. Donc il y a du temps, ça prend du temps. Ne calcule jamais les dérivés, calcule seulement les dérivés pendant les phases during, donc quand on est dans l'état, quand ça ronronne. D'accord ? Et alors ce qui est amusant, c'est que c'est cette politique, en somme, très, très simple, des blocs discrets continus, en fait ça coïncide, en somme, avec, ça explique, et peut-être clarifie un peu certaines des choses qui sont décrites sous forme de documentation. Est-ce que ça suffit ? Non. On n'a pas encore résolu tous les problèmes. Le second problème qu'on doit résoudre, il peut y avoir des boucles. Une sortie dépend d'une entrée et on ne peut pas fabriquer les fonctions. On ne sait pas fabriquer le code, en somme, séquentiel. Alors, il y a des questions passionnantes et qui sont, je pense, liées à ce que Gérard a présenté tantôt. Alors, il y a des programmes dont on se dit, bon, ça, c'est bizarre. De toute façon, il n'y a pas de solution, donc on ne sait pas bien si on devrait l'accepter. Ça, c'est peut-être moins bizarre. Donc, si vous donnez ça à Simulink, Modelica, à d'autres, il vous dit, OK, il y a une solution, ça marche nickel. OK, à demi, ça marche. Mais par contre, si vous êtes en mode, alors en Simulink, ça s'appelle Fast Stimulation, si vous cherchez à générer le code, là, il vous engueule, il vous dit non, on ne peut pas le faire. Là, il faut faire très attention, ça ne coupe pas tous les cycles, absolument pas. Parce que si j'écris x, c'est la limite à gauche de x plus 1, ce n'est pas très différent de x égale x plus 1. D'accord ? Et par contre, il y a des usages, alors vous pouvez avoir j'intègre un 1 qui va me donner un x, je reset sur une condition, je me sers d'un t, le t c'est l'ast de z, z c'est une équation, donc on peut avoir des mélanges un peu étranges entre les gens. Et la question évidemment, est-ce qu'on peut trouver un argument simple pour comprendre qu'est-ce qui est raisonnable et qu'est-ce qui n'est pas raisonnable ? Alors, on a fait une première proposition. Non, pardon, avant de ça, Non, c'est bon, je suis à l'heure. Donc maintenant, on va regarder un peu avec notre sémantique non standard. On va regarder ce programme, d'accord, qui est un programme très simple, on appelle ça la Dancy. Je monte, pouf, je monte, pouf, je monte, pouf. Donc à t égale 0, je reset le signal. Okay. Donc on l'écrit comme ça. Y vaut 1, Y est de pente 1, initialisé à 0, réinitialisé lorsque y moins 1 traverse 0. Réinitialisé à 0. D'accord. Si j'écris directement les équations en somme non standard, comme je l'ai fait précédemment, j'obtiens ça. Et alors, si on regarde ça un peu dans les yeux, on voit que y0 vaut 0, très bien. Yn dit, si z2n est vrai, alors c'est 0. Sinon, c'est ly2n. ly2n, c'est la valeur précédente de y, plus d ronde fois 1. D'accord ? J'intègre une porte 1. C'est quoi zn ? Zn, c'est est-ce que yn moins 1 passe de négatif à positif. Oui, en plus, je me suis trompé, c'est un strict. Là. D'accord. Si vous regardez ça, ce n'est pas causal, parce que la valeur courante de Y dépend de la valeur courante de Z, qui dépend de la valeur courante de C de N, qui dépend de la valeur courante de Y. D'accord. Il faut faire quelque chose. Donc, on va couper ce cycle. Il y a deux façons de couper le cycle. Il y a une façon qui consiste à dire que l'effet du zéro crossing est retardé. Ça prend un tic. D'accord ? Qui est une façon commode, facile de casser le thermomètre. Il n'y a pas de problème. Et alors ça, c'est pas. Évidemment, c'est très tentant, parce que ça simplifie beaucoup. Et ça devient un petit peu ennuyeux si on se demande maintenant quel sens donner à up d'un signal qui a lui-même une discontinuité. Et si on fait ça, ça revient essentiellement à programmer en mettant des registres prêts partout. Et en plus, quand on met des registres partout, ça fait des programmes, on a du mal à comprendre ce que ça fait. Parce que toutes ces cascades s'enchaînent et ont des effets au coup d'après. Et donc, c'est pas forcément... On peut avoir envie de le faire, évidemment, mais ça ne doit pas forcément être un choix par défaut. Mais ça marche. Enfin, je veux dire, c'est une solution qui fonctionne. Hein. Enfin, on a quelque chose à la fois. Et on l'a même essayé. Alors on en a une autre qui est de dire distinguer la valeur du signal Y de la valeur qu'il aurait eu s'il n'y avait pas eu de reset. D'accord ? Et ça, c'est le stateport. Mais comme vous êtes infiniment proche, le signal il est continu, ce n'est pas différent de Yn-1. En fait. Et donc on va écrire last. On va explicitement dire au programmeur, c'est ton problème, c'est toi qui décides. Si tu veux la valeur de la limite à gauche, tu la prends. D'accord. Et en particulier, si le signal a une vraie discontinuité qu'on veut réagir tout de suite, parce que c'est une discontinuité discrète, on le fait. Est-ce que tout ça nous sert à expliquer le bug de Simulink ? Un tout petit peu. Donc vous vous souvenez, le Simulink, deux intégrateurs qui se mordent la queue, c'est un problème tordu, hein. J'en conviens. Ça s'écrit comme ça. X, c'est sa pente, c'est 1, on l'initialise à 0. Lorsque z est vrai, on met moins 3 fois la limite à gauche de y. Y, c'est x initialisé à 0. Quand z est vrai, on met moins 4 fois la limite à gauche de x. D'accord ? Et puis une condition z, voilà, c'est la même que ce que j'ai écrit. Vous mettez ça sous forme de schéma data flow. Ce problème, il est nickel. X dépend du passé. Y dépend du passé. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'implémentation ? Ce qui s'est passé à l'implémentation, c'est un problème très standard d'informatique, c'est pour échanger deux variables, il faut une copie, sinon on ne sait pas faire. D'accord ? Parce qu'il a schedulé d'abord cette équation, en exécutant cette équation, il a fait un effet de bord, et cet effet de bord, non seulement il a mis la valeur de x courante, mais il a écrasé l'ancienne. C'est une variable, pouf ! Une fois qu'il a écrasé l'ancienne, bah, la valeur qui est là, ce n'est plus la bonne. D'accord ? Ok. Alors, on a beaucoup passé de temps sur la causalité. On a fait un système qui est extrêmement simple d'abord, un peu frustrant, qui était de dire on va regarder chaque boucle et puis on va prendre la politique que ça doit traverser un retard. Un intégrateur, on le voit comme un retard qui coupe des cycles. D'accord ? Et puis, essentiellement, on va construire un ordre partiel. Donc, on va dire une fonction à un certain type en entrée, un type en sortie. On va garder ses sortes. Et puis, on a un certain nombre de contraintes, et c'est des contraintes entre des dates, en somme. Donc, c'est des dates abstraites, c'est un paquet de variables. Et on prend comme invariant permanent que ça forme un ordre partiel. Donc, vous n'avez pas de cycle dans ce truc. Vous ne pouvez pas dériver que alpha est strictement plus petit qu'alpha. Bon, sinon, on a un machin un peu faux. Alors, bon, ça, je ne sais pas. Oui, oh, j'ai encore le temps. J'ai plus que deux ou trois slides. Mais... Et donc, ça va nous servir à associer des signatures à des fonctions. Donc, ce sont des choses assez simples. Donc, ça va nous faire rejeter ce programme. Alors, on a un premier théorème dont on était assez content. C'est récent, hein, ce n'est pas encore présenté, donc c'est dans une semaine ou deux. Qui dit, donc je passe les détails de technique, qui dit, en somme, quand on fait un système de type, on a envie d'avoir un théorème à la fin, sinon on ne sait pas trop ce que ça signifie. Et donc le théorème dit, si les programmes sont bien typés, d'accord, en dehors des discontinuités annoncées par les up, donc voyez, vous mettez votre doigt sur votre code, vous avez un up, ça définit des instants. À ces instants, on a un flag, on dit vrai. Vous enlevez ces instants-là, vous regardez les entre-instants de up. Le théorème dit, pendant ces instants, qui sont en somme des instants d'intégration, les signaux sont continus. Donc ils ne bougent qu'infinitésimalement. D'accord ? Et on a trouvé enfin, alors beaucoup par les excitations très efficaces de Gérard Berry, un usage à la sémantique non standard. Jusque-là, on avait la crainte que ce soit simplement une réécriture différente de choses existantes, peut-être plus simple. Donc le théorème, c'est une preuve complètement algébrique dans laquelle on montre que pour chaque signal x, x de t plus un infinitésimal est infiniment proche de x de t. Je serai rapide sur la... Ah non, bon, sinon, je suis peut-être en avance. La dernière partie qui était un peu importante dans ce travail, c'était de montrer qu'on pouvait réutiliser des technos très pratiques de compilation. Alors, je vous ai montré une structure du compilateur du prototype qu'on a fait, mais qui n'est pas si différente de la structure du compilateur scale. Bon, il y a des petites choses de base, du typage, on va vérifier des propriétés statiques sur le programme, on va inliner les fonctions, et puis le compilateur marche par réécriture successive. Donc on commence par enlever les automates en les traduisant en data flow, on met les équations dans une forme un peu jolie. Donc si j'enlève les parties sombres, c'est les parties classiques d'un langage synchrone. Bon, le typage y est aussi, la causalité aussi, mais période, ne le regardez pas, discrete zero crossing, ne le regardez pas, vous avez ça. Donc vous enchaînez des étapes de réécriture source à source. Le compilateur a été réalisé de la même manière, on a rajouté, donc on a dû changer un peu le typage, on a dû changer un peu la liste de causalité, et puis on a rajouté, à côté des zero crossing, une forme un peu particulière de zero crossing qui sont très utiles, qui sont les horizons. Lorsque vous cherchez à activer un truc toutes les 3 secondes, vous n'allez pas représenter 3 secondes par un zero crossing, c'est beaucoup trop efficace. Vous pouvez dire inefficace, vous allez dire directement au solver, arrête-toi à t plus 3. Donc il y a ces constructions-là. Et toute l'infrastructure fonctionne par réécriture de code. Autrement dit, l'étape dite ODE, ça consiste à enlever les ODE, à les traduire sous la forme d'un petit programme synchrone. Et ensuite, on continue jusqu'à obtenir le code. Et le théorème dont j'ai parlé tantôt nous aide parce qu'il dit la fonction qui est fabriquée, la fameuse fonction f et la fonction g qui sont fabriquées, je te garantis qu'elles n'ont pas d'état interne, elles n'ont pas d'effet de bord, pardon. D'accord ? De cette façon-là. Alors ça pose des tas de questions pour est-ce que ces idées-là en somme, si vous avez déjà une chaîne qui est certifiée dans laquelle vous voulez rajouter les ODE, Comment s'y prendre? Est-ce que c'est la bonne manière de faire? C'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Il y a une variété gigantesque d'outils, les nouveautés par rapport à ces outils. Il y a un aspect plus intégré, plutôt que de connecter Stateflow avec Simulink, etc., c'est un seul langage. Il y a une séparation qui est plus, en somme plus rigide, une sorte de discipline de typage qui est plus forte. Modelica est plus loin, en somme, parce qu'il manipule des objets continus beaucoup plus riches, qui sont les équations différentielles algébriques, avec des difficultés de compilation, de réécriture, de retraduction sous forme d'ODE, de réduction d'index et autres, dont on n'a pour le moment que des solutions partielles. Et certaines des idées qu'on a eues ont été intégrées récemment dans la nouvelle norme de Modelica, qui est un langage ouvert avec plusieurs compilateurs différents. Et évidemment, c'est à comparer avec les travaux de Edward Lee. On a suivi là un chemin plus modeste, en somme. Plutôt que d'avoir des modèles de calcul divers, qu'on va essayer de combiner, on se dit, non, on a un seul modèle. On a du synchrone et on fait tout. Enfin, on ne fait pas tout. On fait le continu de l'Israël. D'accord ? Avec cette idée qu'on veut générer du code, qui est un point tout à fait important. On veut fabriquer à la fois du code séquentiel pour le code embarqué et aussi pour avoir des simulations rapides. Voilà, je vous remercie. J'ai pris un peu de temps, 30 secondes. Non, oui, 3 secondes. Merci.